Eh oui, il pleut, Issa l'a déjà dit, mais jusqu'ici ça va. Ici et maintenant, face à l'agitation du monde en direct dans les studios d'Escapade avec les parapluies. Pour ne pas rester indifférent à l'agitation du monde, on garde du rythme, de l'ouverture et on résiste. Seven oblige. Bienvenue dans Intermédia en Escapade. Sommaire, dans la rubrique médias, nous revenons sur le déroulement pathétique de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, conduite par le jeune et ambitieux député héraulté sciotiste Charles Alloncle, et l'offensive de l'extrême droite européenne sur les médias publics. Si le thème de notre dernière émission consacrée au Proche-Orient était résolument international, l'émission d'aujourd'hui revêt une dimension beaucoup plus locale en relation avec le développement territorial. On reviendra sur le festival Danse Vigan qui s'est tenu la semaine dernière avec sa directrice artistique Virginie Recollet-Chadem. Et nous irons faire un tour au Carrefour des alternatives citoyennes qui s'est déroulé à Saint-Jean-de-Fosse du 24 au 26 avril dernier. Un grand week-end festif qui démontre la vitalité de la société civile en milieu rural. Enfin, dans la rubrique culture, la chorégraphe madrilène Marta Izquierdo Munoz, qui était invitée du Festival du Vigan, nous parlera de sa création Rôle et comment une lutte politique se transforme en confrontation sportive et transite vers l'émulation chorégraphique. Altermédie décloisonne l'info locale et s'intéresse au monde à partir d'ici. Celui des médias vient de vivre une comédie, un spectacle affligeant, un mauvais feuilleton dont une nouvelle saison s'est ouverte au lendemain des élections municipales, avec commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la neutralité, le fonctionnement et le financement du service public audiovisuel. La distribution de cette mauvaise pièce s'explique sans doute par le casting, avec en tête d'affiche Vincent Bolloré et le rapporteur Charles Alloncle, député sciotiste de la 9e circonscription de l'Hérault, du côté de Moguio et Lunel. Adopté le 27 avril après 6 mois de travaux et 200 heures d'audition, le rapport du député Charles Alloncle cristallise les tensions autour de l'audiovisuel public. Les syndicats CGT de l'audiovisuel public dénoncent un texte à charge, truffé d'erreurs factuelles et indigne d'une commission d'enquête parlementaire. C'est drôle parce qu'en préparant cette émission, je me disais hier que nous sommes en droit de nous interroger sur la portée idéologique de l'action conduite par le rapporteur Charles Alloncle. Surtout depuis que Le Monde a révélé que des questions ont été fournies aux membres de la commission par Lagardère News, propriété de Vincent Bolloré. Et on apprend ce matin que Charles Alloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, est visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt. Plainte déposée samedi 2 mai devant le parquet national financier à Paris pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence passif. Le député sciotiste inconnu de 32 ans qui s'est fait connaître en tant que rapporteur controversé de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public est visé par cette plainte déposée contre X par l'association AC Anticorruption. Dans cette même plainte, Lagardère News est aussi visé pour le trafic d'influence actif. Le recours en justice s'appuie sur les révélations du Monde, selon lesquelles le groupe Lagardère, contrôlé par Bolloré, avait tenté de peser sur la commission d'enquête. Pendant cette commission, Lagardère News, qui détient notamment Europe 1 et le Journal du Dimanche, a envoyé à plusieurs députés des listes de questions hostiles à l'audiovisuel public avant leurs échanges avec des auditionnés. Radio France avait appelé à faire toute la lumière sur des collusions éventuelles à l'œuvre avec les acteurs directement intéressés à la déstabilisation de l'un de leurs concurrents. C'est désormais à la justice de faire son travail et d'éclairer ce processus trouble, pour ne pas dire cette sombre magouille. « l'offensive qui vise l'audiovisuel public ne concerne pas que la France. Partout dans l'Union européenne, l'audiovisuel public fait face à une série d'attaques convergentes. Réduction des financements, remise en cause de la redevance, pression politique portée par des droites populistes, nationalistes et leurs alliés. En Slovaquie, la suppression de la redevance a entraîné une chute significative du budget du diffuseur public. En République tchèque, longtemps considéré comme un modèle, le nouveau pouvoir s'attaque frontalement au financement et à l'indépendance des médias publics. L'exemple de la Hongrie est emblématique. Dès son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban a profondément restructuré l'audiovisuel public, centralisé au sein d'un organisme contrôlé par l'État. Que fera Peter Maïgar qui inaugure l'ère post-Orban? Ça reste une question. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni multiplie les plaintes contre les journalistes et reprend en main les médias publics. Le directeur du média en ligne Frank Page, à l'origine de révélations sur la persistance du folklore fasciste et nazi dans les rangs des jeunes militants de la Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, a dû se débarrasser de son téléphone infecté par un logiciel espion. Pour en apprendre davantage sur l'état des médias en Europe, on pourra en discuter avec Renate Schulder, la présidente de l'Association européenne des journalistes, qui sera l'invitée des Cafés de l'Europe jeudi 7 mai à 18h30 à la Maison des Relations Internationales de Montpellier.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ça sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout jamais prendre de congés. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le, quand il te parle, écoute-le. Le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
J'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la régie. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'y ai vu. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Je veux entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celle qui vous tape comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse,
mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pue dehors. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner en rond. Ton cerveau te fait des faux, fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira juste pour le pas. Quand te dise voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs. La survie est un combat. Base de combat, de coups, de tombat, d'esquive, de super. De putain de stromba. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas
traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils.
Partout, les habitantes et les habitants inventent des solutions pour mieux vivre ensemble. Il suffit de prendre la peine de regarder autour de nous pour en prendre la mesure. Des personnes de toutes origines se rassemblent, réfléchissent, s'organisent pour agir sur leur quotidien. Prendre soin des plus fragiles, accompagner et parfois interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils agissent là où il est nécessaire de tisser des liens sociaux indispensables pour faire société. Du 24 au 26 avril dernier, Altermidi a participé au Carrefour des alternatives citoyennes à Saint-Jean-de-Fosse, un carrefour réunissant associations et collectifs qui agissent pour transformer les territoires vers un mieux vivre ensemble, sur une planète habitable. Cette première édition d'un festival ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent s'informer, mieux comprendre et partager les initiatives et les alternatives des habitantes et des habitants de nos territoires, a été riche de forums, tables rondes, ciné-débats, ateliers sur des sujets aussi divers que l'alimentation, la mobilité, la finance et les monnaies libres, les arts et la culture, les médias, l'économie sociale et solidaire, les énergies, l'habitat, l'écologie et la biodiversité. C'est fou ce que nous pouvons réaliser ensemble en tant que citoyens et citoyennes. Le premier carrefour des alternatives citoyennes, organisé en dehors des centres urbains, l'a démontré. On en parle avec Arnaud Carpier. Arnaud Carpier, bonjour. On est dimanche, c'est le troisième jour du carrefour des alternatives citoyennes. Vous êtes un des initiateurs de ce carrefour avec Radio Pays d'Hérault. C'était quoi l'idée au départ ?
Mais écoutez, l'idée, c'est de se dire, au fond, dans la société actuelle, il y a ceux qui se lamentent, et des fois à juste titre, parce que le monde est dur, parce que les conditions de vie, des fois, sont difficiles pour bon nombre de personnes, parce qu'on a une anxiété sur ce qui se passe dans le monde, et il ne se passe pas que des choses bien, et que la guerre ne peut pas être un horizon pour les populations en France comme ailleurs. Et pourtant, voilà, en fait, c'est un peu ça notre interrogation, c'est « et pourtant ». Et pourtant, la société, elle tourne, elle fonctionne. Et pourtant, on a des solidarités qui se développent envers les plus faibles, envers les migrants, envers les personnes isolées, envers les anciens, pour les jeunes. Et puis on a une économie qui se développe à l'ombre un peu de ce qu'on appelle le CAC 40. Nous, on est le CAC 34, le carrefour des alternatives citoyennes de l'Hérault. Et à l'ombre et en même temps dans des formes différentes. Parce qu'on a des entreprises de l'économie sociale qui ont des gouvernances collectives. Ça, ça n'existe pas dans l'entreprise privée ou si rarement. Parce que on a des acteurs qui agissent pour l'environnement, parce qu'ils ont bien compris que la menace peut-être, je parlais d'anxiété tout à l'heure sur le monde, c'était peut-être l'effondrement de la biodiversité ou le réchauffement climatique. Parce qu'on a des entreprises qui produisent sans rechercher le profit. C'est-à-dire, au fond, qui réinvestissent constamment les excédents, parce qu'on ne les appelle pas des bénéfices à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, on a eu une table ronde de l'économie, de l'autre économie, de l'économie autrement, extrêmement instructive, avec notamment l'économiste Benoît Boris, qui nous propose une sécurité économique et sociale. Voilà, donc c'était un peu notre sentiment de départ, qu'il fallait donner de la visibilité, permettre aux acteurs qui se rencontrent aussi, mais de se rencontrer dans nos situations en milieu rural, d'échanger, de débattre, le cas échéant, de trouver de nouvelles formes de collaboration, d'envie de travailler ensemble. Et puis nos tables rondes, donc, c'est aussi pour réfléchir à ce qu'on appelle le changement d'échelle.
Alors, Trois jours qui ont été très nourris, puisqu'on avait l'embarras de choix sur les manifestations. Hein, ça commence à 10h du matin et ça finit à pas d'heure. Hier, il y avait un bal populaire. Ce soir, il y aura encore d'autres manifestations. Comment vous avez concerné et concerté les acteurs qui participent à ce carrefour ?
Ben, ça a été un long processus, finalement, nous, déjà, pour nous retrouver entre quelques-uns, Alternatiba, qui a joué un rôle essentiel hein, dans la mobilisation et l'organisation, Radio Pays d'Hérault, le Conseil de développement du Pays Cœur d'Hérault, donc un certain nombre de premiers acteurs qui s'est élargi progressivement, Enercop, la compagnie Pepi Morena, Transportons-nous, voilà, donc une série d'acteurs qui se sont constitués en fait en collectif. Donc il y a eu un travail de construction, je dirais, de ce qu'on appelle le concept, c'est-à-dire la manière de penser cet événement, qu'on avait dit un peu au départ, mais qui a pris ces formes-là. La constitution d'ateliers, la constitution de forums dédiés.
Dessiner des bas,
voilà. Donc toute une série d'éléments où là, effectivement, on était bien sur ce concept-là, faire connaître, se connaître, se reconnaître. Hein, c'est-à-dire au fond, et puis les tables rondes, voilà, trois tables rondes, une première table ronde, je parlais tout à l'heure sur l'autre économie, voilà, comment on fait, comment ça pourrait déboucher sur des coopérations territoriales renforcées, y compris sur des coopérations entre structures de l'économie sociale, structures alternatives, entre la métropole, le Montpellierin, l'urbain et le rural, hein, parce qu'on est dans des interdépendances. La table ronde du soir sur l'alimentation, ses contradictions, ses enjeux aujourd'hui, eh bien là aussi on est dans cette double... nous on est en partie producteur, encore que le Cœur d'Hérault n'est pas indépendant pour sa consommation, hein, malgré ce qu'on pourrait penser, mais évidemment encore moins pour la métropole. Et là, il y a des coopérations, des collaborations nécessaires. Et puis penser la question du vivant, penser la question de l'agriculture. Juste un point, dans le Cœur d'Hérault, on va avoir des milliers d'hectares de vignes arrachées. Et comment on travaille sur la suite, comment on travaille sur ce qu'on appelle la reconversion. Donc on a déjà des expériences en cours, comme par exemple réintroduire du blé panifiable, des blés anciens, des blés résistants, recréer une filière pour en faire de la farine, recréer une filière pour avoir des boulangeries qui vont utiliser ces farines-là. Et donc voilà, on a besoin il faut se rappeler que nous, on a la culture de la vigne comme quasiment monoculture ou quasi-monoculture dans nos territoires. Mais en fin du 19e, en début du 20e, le blé dur, alors c'était pas pour faire du pain, mais pour faire des pâtes. le blé dur était, je sais pas si on peut dire dominant, mais était extrêmement important, par exemple, dans nos territoires ruraux autour de Montpellier.
Alors, territoires ruraux, c'est quand même une des particularités. Il faut rappeler qu'on est à Saint-Jean-de-Fosse, ici. Et d'ailleurs, les gens peuvent venir encore aujourd'hui. Ça sera aussi, pour ceux qui n'ont pas pu venir, rediffusé par RPH, mais aussi différentes radios. Il y a eu aussi une mobilisation des radios locales. Ça, c'est intéressant, peut-être.
Oui, tout à fait. Nous, on a souhaité... Alors, le collectif, globalement, sur la proposition, évidemment, de Radio Pays d'Hérault, porter cet événement du point de vue, retransmission, du point de vue médiatique, du point de vue captation, avec d'autres partenaires qu'on connaissait déjà, avec qui pour certains on a déjà travaillé, mais aussi, comment dire, mettre en avant la solidarité des médias indépendants. Donc on a Divergence sur Montpellier, on a FM+, et puis Radio Pays d'Hérault comme média audio, et puis évidemment cette collaboration avec Altermidi, parce que là aussi on a besoin de solidarité, on a besoin de reconnaissance, alors on l'a de nos auditeurs parce que sinon on n'existerait plus et les uns et les autres, mais on a besoin d'élargir et de changer d'échelle sur cette question-là, à un moment donné où on revient Je vais faire un peu d'histoire, je voudrais pas... Mais à une situation d'avant 1939, de concentration des grands médias. Avant 1939, les grands médias étaient appartenaient à des grands financiers, pas des grands groupes, mais des grands financiers. Et il y a une loi en 45 ou 46, en tout cas après-guerre, qui a interdit, au fond, que les grands groupes financiers soient détenteurs des grands organes de presse. Et puis les choses ont changé, paradoxalement d'ailleurs, sous un gouvernement socialiste, sur l'ouverture à la concurrence, notamment dans l'audiovisuel. Et ça a eu des conséquences sur l'ensemble de la presse, l'ensemble des médias, puisque on pouvait privatiser des chaînes au niveau national, avec des grands financiers du bâtiment, par exemple. Alors, pourquoi pas dans les autres médias? Et petit à petit, je dirais pas sans qu'on s'en aperçoive, mais quand même à bas bruit, cette question est montée. Et aujourd'hui, l'essentiel de l'édition et l'essentiel des médias, ou une très grande partie, hors évidemment médias publics, appartiennent à ces grands groupes financiers. Et c'est une vraie question pour la démocratie, c'est une vraie question pour l'information sincère, pour l'information honnête.
Alors ça, c'est effectivement un fait à souligner et peut-être aussi à préciser, dans le sens où on parle toujours de ces 9 ou 10 milliardaires qui possèdent l'ensemble des médias français, on parle moins de la centralisation au niveau des régions, puisque comme vous le disiez, après-guerre, il y avait 200 quotidiens régionaux. Aujourd'hui, on doit être à 53-54. Grosso modo, on en a perdu 75%. Et ils sont concentrés dans 9 propriétaires, ces médias-là. Donc c'est quand même un point qu'on oublie souvent quand on parle au niveau des médias régionaux. correspondant Altermedi sur Radio Escapade. Et tout va bien. On retourne au croisement des droits culturels, de l'éducation populaire et de la citoyenneté, mais aussi du développement territorial, avec Arnaud Carpier qui évoque le carrefour des alternatives citoyennes qui s'est tenu fin avril à Saint-Jean-de-Fosse. Parlons un petit peu du public. L'idée aussi de ces journées, c'était de concerner un public au-delà des acteurs qui sont eux-mêmes engagés. Où on en est par rapport à cette question-là ?
Alors je dirais qu'on est un peu au milieu du gué sur cette question-là. On a mobilisé des publics déjà peu ou prou concernés. On a réussi à mobiliser à la fois sur les moments festifs, mais également sur des ateliers, je dirais, des habitants de Saint-Jean-de-Fosse et des alentours, mais pas suffisamment selon nos objectifs premiers. Je pense qu'il y a vraiment à travailler sur cette question-là, parce que la sous-information d'une grande partie de la population sur ce qui existe déjà, là, on parle même pas de dire, moi je disais dans mon introduction vendredi soir, on n'est pas là pour vous faire rêver au monde de demain, encore qu'on peut le faire parce que ça fait toujours du bien le cas échéant, mais on est là pour vous démontrer que ce nouveau monde, il existe déjà en germe, il existe déjà en réalité, à bas bruit, dans des secteurs limités, dans des actions peut-être limitées, pas uniquement d'ailleurs, hein, mais on ne le connaît pas, alors qu'on pourrait s'en saisir. Et dans tous nos villages et dans tous nos quartiers, dans toutes nos villes, hein, pour parler aussi de l'urbain, eh bien, le mettre en œuvre, créer ces solidarités économiques, créer ces nouveaux dispositifs, parce qu'ils existent déjà, parce qu'ils sont dans notre législation, parce qu'ils ne sont pas encore interdits, et parce qu'on a encore les sources de financement pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire, et pour dire, transformons tout maintenant. On a tous les outils de cette lente prise en charge des citoyens de leur vie. Elle existe, elle est en marche, mais il faut s'en saisir parce que ça demande effectivement qu'on s'en saisisse et qu'on la développe et qu'on en fasse un outil beaucoup plus partagé.
Alors, en suivant un petit peu les débats qui ont eu lieu et qui vont encore avoir lieu aujourd'hui, on se rend compte que les acteurs répondent à des besoins très concrets. Qui peuvent souvent être de nature sociale. Après, sur la question du lien entre ces acteurs, on a le sentiment qu'il y a encore du chemin à faire. Dans une certaine mesure, il y a des initiatives qui débutent, d'autres qui marchent. Mais une fois que l'initiative marche, il y a une difficulté à faire lien. Et le lien, il est peut-être important aujourd'hui.
Je dirais au fond que les acteurs, ils ont l'habitude de se rencontrer. On a eu la création de la coopérative des SCOP, la coopérative méditerranéenne, qui était un rassemblement de SCOP. On a des événements qui permettent de se rassembler. Est-ce qu'on a des endroits, des espaces pour collaborer ? C'est plus compliqué, de manière plus collective. Donc c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. C'est peut-être ces questions-là qu'il faut mettre au devant de la table. Ensuite, on a des logiques territoriales. Là, on a essayé de pas de les franchir, mais en tout cas d'ouvrir ces espaces-là. Parce qu'il faut mieux se connaître. Moi, je vais vous parler juste au nom de Transportons-nous, par exemple. On a mis un long moment à travailler, et pas parce qu'on ne le voulait pas, ni même de leur côté, avec l'Autrocom sur Montpellier, avec les opposants au lien, avec les collectifs vélo, bicyclette, marche à pied, parce qu'il nous semblait qu'en fait, on n'était pas totalement raccord. Mais parce qu'on partait chacun de son point de vue rural, de ses besoins propres. Et par exemple, sur cette question des transports, on se rend compte que le désenclavement des zones rurales, il passe par le désengorgement. Ou le désengorgement des zones urbaines, il passe par le désenclavement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire répondre aux besoins des métropolitains en termes de mobilité uniquement par le tramway interne, quand il y a des embouteillages tout autour, parce qu'on n'a pas réglé la question du déplacement des ruraux qui sont contraints de venir travailler à la ville. Donc si on ne comprend pas ces solidarités et ces interdépendances, Alors, on ne peut pas comprendre la nécessité de collaborer. Et il faut que les... Enfin, il faut... En tout cas, nous, on souhaite que les organisations qui sont là, et puis plein d'autres avec qui on a eu des contacts, qui ne pouvaient pas venir, etc., on aurait pu faire deux carrefours en même temps. Enfin, il faut faire des choix, puis ceux qui ne pouvaient pas venir, donc voilà. Mais travaille sur ces questions-là, et peut-être que ça déteigne aussi sur les élus qui ne restent pas sur leur précaré, du point de vue territorial au moins, en disant, moi, vous savez, c'est comme ce légionnaire d'Astérix, quand on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à tourner toujours autour de la même dalle? Il dit, moi, on m'a demandé de balayer la demi-dalle qui est là, et tant qu'on ne me dit pas d'aller balayer la demi-dalle qui est à côté, je ne le fais pas.
Alors, c'est déjà une réussite, ce carrefour, par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous envisagez une prochaine édition?
Je crois qu'on a bien travaillé, qu'on a bien progressé. Sur les contenus, sur les confrontations amicales, mais les confrontations dans les forums, dans la table ronde, sur la visée possible. Après, évidemment, on a beaucoup à travailler sur comment on communique, comment on a de multiples communications nécessaires. Ceux qui sont engagés, le grand public, les élus. Voilà, donc les choses peuvent se faire. Mais donc il faut vraiment qu'on arrive à faire ces échanges-là dans des cadres ouverts qui permettent de ne pas s'affronter, mais vraiment d'échanger sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour consolider une société de liberté, une société de république, une société de laïcité qui progresse.
À noter que les médias indépendants locaux comme Radio Escapade, Altermidi, Radio Pays d'Hérault, Radio FM plus Divergence FM sont partie prenante pour relayer les actions menées par la société civile qui transforme le territoire pour mieux y vivre ensemble. Cela fait partie de leur mission, de leur raison d'être. Vous pourrez écouter bientôt en podcast sur ces différents supports les échanges et débats qui se sont tenus à cette occasion. La dimension festive et culturelle occupe une place centrale dans le développement territorial. Et il semble qu'on l'ait bien compris dans la commune gardoise du Vigan, comme à la Comcom du pays viganais. C'est en tout cas le message qu'ont fait passer le président de la Comcom, Régis Bayle, et la maire Sylvie Arnal, en inaugurant la semaine dernière le 4e festival danse Le Vigan. Miser sur l'ouverture, l'échange et la culture pour conjurer la tendance au repli sur soi, soutenir un festival de danse dans une commune de 4000 habitants en zone rurale relève d'un engagement. On en parle avec la directrice artistique Virginie Rogolin-Ganem. Virginie Rogolin-Ganem, on est à l'inauguration du festival Le Vigan Danse, 4e édition. Et vous en êtes un peu à l'origine, vous êtes la directrice artistique du festival. Comment s'est né ce festival?
Alors, le festival est né par vraiment un concours de circonstances. Je suis arrivée donc au Vigan après le Covid. Il n'y avait pas donc de grande activité autour de la danse. Il y avait des pratiques amateurs, etc. Il y avait donc une école de danse qui s'appelle le Carré de la Danse qui faisait la journée de la danse, journée mondiale. Et puis après, cette école a voulu donc arrêter de fêter cette journée. Et du coup, je me suis proposée pour aider à prendre la relève. Mais tout de suite, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un festival. Je suis allée à la mairie grâce donc au directeur du cinéma du Vigan, le cinéma Le Palace. Et il m'a dit, voilà, je vais te présenter les élus. Et là, je leur ai juste dit, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un festival de danse. Et ils m'ont dit, c'est ce qu'on attendait depuis 40 ans. Donc c'est parti. Et c'est grâce à l'adjoint de la culture qui était en poste à ce moment-là, Denis Sauveplane, que tout a commencé. C'est-à-dire que la municipalité du Vigan m'a suivi, le cinéma m'a suivi, puis j'en ai parlé au Gard. Le département du Gard a été un pilier très important pour le démarrage du festival. Donc c'était à l'époque, c'est toujours d'ailleurs Emmanuel Martinetti. Tout le monde m'a dit, ok, on a fait une grande réunion Et voilà, et on a lancé la première édition grâce à toutes ces personnes qui se sont vraiment engagées pour ce projet. C'était en fait vraiment une volonté, je pense, de territoire. Parce que donc on est dans une zone assez rurale, un peu isolée. Moi-même, je suis née ici. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 12-14 ans et je voulais être danseuse, donc j'ai quitté la région. Je suis partie à Montpellier, puis Paris. Et donc, en revenant 40 ans plus tard, je me rends compte que c'est quand même important d'amener la danse dans des zones extrêmement reculées et isolées. Donc moi, mon but, c'était vraiment de proposer de la formation professionnelle et une ouverture professionnelle pour toutes les pratiques amateurs qui se font déjà ici. On a énormément de danses qui sont enseignées, danse classique, moderne jazz, afro-contemporain, hip-hop, etc. Mais il n'y a pas le maillon manquant de la semi-professionnalisation pour ensuite faire des danseurs ou amener vers un conservatoire ou vers une compagnie de danse. Donc là, le but du festival, c'est de programmer des compagnies nationales, internationales, avec des petits moyens techniques. Donc tous les artistes et tous les chorégraphes s'adaptent. Et d'amener dans cette région, tout le pays viganais, tout le bassin viganais, l'art chorégraphique au sens large.
Comment vous arrivez à trouver cet équilibre entre la volonté qui est la vôtre de faire un festival qui soit professionnel et puis toutes ces initiatives qui existent déjà et entre le territoire et une dimension artistique qui a vocation à être reconnue?
Alors, donc chaque année, je propose aux associations locales, aux cours de danse, aux professeurs, aux danseurs qui sont ici, de présenter leur travail en amont du festival. Par exemple, hier, on a fêté la Journée internationale de la danse. On était mercredi 29 avril. Et là, j'ai fait une scène ouverte. Donc, il y a l'école de danse Saint-Bosile de Putois qui est venue. Ils ont des élèves niveau concours. Ils sont venus présenter leur travail. Ensuite, l'année d'avant, il y avait une école de danse ici du Vigan qui avait présenté son travail. Une année, on a fait une parade dansée dans la ville. On essayera de le refaire aussi. Donc, le but, c'est de faire intervenir toutes les associations, tous les danseurs amateurs, à un moment donné du festival, pour effectivement participer, mais aussi on propose des workshops, des stages avec les chorégraphes invités. Et là aussi, on fait appel à tous les amateurs qui sont ici pour pouvoir profiter de ce festival, montrer aussi eux ce qu'ils font, faire fructifier un peu leurs pratiques, diversifier leurs pratiques.
Alors par rapport à ce que vous décriviez comme justement le fait d'implanter un festival dans une zone rurale, avec j'imagine toutes les difficultés que ça comprend, quels sont vos leviers d'action? Comment vous pouvez agir? Avec qui vous pouvez mettre en place ce projet fantastique? Parce que en milieu rural, c'est quand même très compliqué. Il faut former le public, il faut...
Oui, alors ça a pu se faire parce que la municipalité du Vigan est extrêmement engagée pour la culture. Vraiment, totalement engagée. C'est une priorité pour eux. Ensuite, la DRAC, la région et le Gard ont suivi énormément. Donc déjà, ça c'était un appui administratif et financier fondamental. Ensuite, effectivement... j'ai créé une équipe avec des techniciens qui sont ici à l'année pour faire fonctionner l'auditorium, qui sont aussi des techniciens qui ont fait beaucoup le Festival d'Avignon, qui ont tourné dans le monde entier et qui sont très engagés pour la culture. Et ensuite, trouver des partenaires, que ce soit au niveau des compagnies de danse ou que ce soit au niveau des associations locales, qui ont envie de s'engager dans ce festival, bien sûr, la plupart bénévolement. On est d'accord. Et je crois que c'est la passion des gens. C'est parce que pour nous, l'art, c'est la vie. La danse, c'est notre vie. Ça sera pareil pour quelqu'un du théâtre. Donc, coûte que coûte, on essaye de faire vivre le projet.
Ça a suivi aussi au niveau artistique, parce que, bon, au niveau des équipements, des infrastructures, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut au Vigan. Peut-être que ça viendra, mais comment réagissent les artistes?
Alors, donc, oui, alors, l'idée du festival, c'est d'utiliser tous les espaces non dédiés. Alors, évidemment, ça a un coût de production, qu'on ne peut pas forcément fournir, mais donc on cherche des solutions parfois de vraiment très artisanales. Comme cette année, on va occuper le jardin du château d'Assas, le temple du Vigan. On met donc toujours un spectacle sur le terrain de basket des arènes. Et en fait, on cherche des spectacles et on demande à certains chorégraphes de s'adapter. On cherche des spectacles qui puissent aller en plein air, dans des lieux vraiment non dédiés au spectacle. Il faut savoir que de plus en plus, les compagnies de danse proposent une version salle pour leur spectacle et puis une version en extérieur. Donc c'est comme ça qu'on arrive à travailler. Le spectacle qu'on a vu ce soir, Roll, c'est un spectacle qui se fait en salle, mais c'est un spectacle où ils adorent être en plein air, sur des terrains de sport. Et donc c'est un travail de repérage, repérer les chorégraphes qui vont être assez inventifs et audacieux pour venir dans le cadre qu'on peut leur proposer et avoir envie de présenter leur spectacle en gardant la qualité, bien sûr.
Le spectacle qu'on a vu ce soir de Munoz est audacieux, on peut le dire. Est-ce qu'il y a d'autres grands moments forts pour ce festival, cette quatrième édition ?
Alors là, je pense que c'était le plus audacieux, on va dire. Hein. Après, bon, on essaie d'avoir une programmation assez diversifiée. Par exemple, demain soir, on va avoir le solo de Yann Lereux, qui est un solo sur la réalité de la maladie d'Alzheimer à travers sa maman, qui elle-même est atteinte de cette maladie. Donc voilà, c'est tout un poème qu'il a écrit pour sa mère. Donc là, ça touche un sujet qui est assez particulier, hein, pour de la danse, et en même temps qui va toucher énormément de gens. Voilà. Ensuite, le samedi, on a choisi un spectacle qui rend hommage au fado grâce à une chorégraphe qui est des Pays-Bas, mais d'origine portugaise. Donc là aussi, c'est un répertoire et un registre qu'on voit rarement dans le milieu de la danse. Voilà, donc on cherche comme ça un peu des originalités.
Comment réagit le public viganais par rapport à cette initiative ?
Le public viganais est très ouvert. Très étonnamment, on croit que dans les zones rurales, les gens sont différents que dans les grandes villes, mais pas du tout. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, la ville, la campagne, avec l'Internet, c'est un échange fabuleux qui se crée. Donc, le public viganais est friand, vraiment, de ce genre de spectacle. Ici, de toute façon, toutes les manifestations qui se font, c'est toujours salle pleine. Que ce soit en théâtre, en musique, le cinéma. Et donc, en fait, il y a une culture vraiment, il y a une tradition du spectacle qui n'existait pas vraiment pour la danse, mais là, qui est en train de prendre aussi autour de la danse. Mais vraiment, c'est un public très réceptif. Même, vous avez pu voir ce soir, hein, les gens ont énormément participé au spectacle, très étonnamment.
Ouais. Ils y étaient invités.
Oui, ils y étaient invités.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir ? Comment est-ce que vous voyez ce festival ? Quels sont les défis qui sont à relever ? Et comment est-ce que vous l'imaginez dans quelques années ?
Alors, déjà, c'est un festival qu'il nous faut structurer maintenant. Il faut continuer à construire une équipe, continuer à construire une logistique des lieux qu'on peut explorer et exploiter pour la danse. Bien sûr, on est dans une période très difficile. C'est-à-dire que les institutions, déjà, sont obligées de réduire les enveloppes. Donc, en plus, favoriser des nouveaux projets, c'est très difficile pour eux. Mais moi, je sais que pour le festival là, du Vigan, ils font un énorme effort. Hein, donc, ça, c'est fabuleux. Et ensuite, l'idée, c'est de développer, d'élargir les publics. Moi, mon objectif, c'est pas seulement le public viganais. C'est vraiment de faire venir toute personne de l'extérieur, que ce soit au niveau départemental, régional, de les faire venir ici au Vigan, de leur faire connaître ce territoire et de produire aussi donc des spectacles qu'ils verront peut-être pas forcément ailleurs. Ça aussi, c'est un défi de faire des commandes auprès des chorégraphes, d'avoir envie d'investir des lieux. Et peut-être un petit peu diversifier la programmation, je l'ai fait l'année dernière, c'est d'avoir un concert de musique du monde, de valoriser d'autres productions. Comme ça, par petites touches dans le festival, tout en restant bien sûr un festival de danse. Hein, mais voilà, ça m'intéresse d'élargir. Ensuite, cette année, on fait une table ronde. L'année dernière, on avait fait des conférences, l'année d'avant aussi. Une table ronde, moi, ça m'intéresse qu'il y ait des lieux de réflexion, en fait, que ça devienne un lieu d'échange, Et là, à la table ronde, bon, on va poser des questions. La création en France, la création en exil, etc. Comment ça se fait que les chorégraphes viennent en France créer ? Est-ce que, quel est leur chemin pour venir jusqu'ici ? Voilà, moi, j'ai envie d'ouvrir à la réflexion, qu'il y ait beaucoup d'espace comme ça, de rencontres autour de la danse. Mais pas que, ça touche tous les arts.
Voilà. Dans une région qui est quand même assez bien dotée, entre Montpellier Danse, le Festival du ZES, vous allez développer cette identité viganaise, alors ?
On espère. On a un partenariat avec UZES qui est très important. Là, cette année, on a deux spectacles en partenariat. Montpellier Danse aussi, on essaye de faire des échanges. On fait des échanges avec le festival de Yann Leroux, qui est donc au Pic Saint-Loup, avec Art Fabrique. C'est un festival qui a lieu en septembre-octobre. Là aussi, on va essayer aussi de développer une programmation à l'année. Programmation autour de la danse, d'avoir au moins 2-3 spectacles dans l'année qui viennent au Vigan. Donc avec Yann, on a un projet pour le 1er octobre 2026. Voilà. Et donc, oui, tisser des liens, créer un réseau. Nous, on est une petite ville. Donc notre moyen de construire, c'est de créer des réseaux avec les autres partenaires qui existent depuis 30 ans, comme le Festival du ZES, par exemple, et de partager les productions. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci infiniment.
C'est la madrilène Marta Izquierdo Muñoz qui a ouvert le festival Danse Vigan dont on parlait justement avec Roll, dernier volet d'un triptyque sur les communautés féminines et leurs pratiques, programmé à Montpellier Danse en 2024. Quelques années après la mort de Franco, dans un quartier pauvre de Madrid, Marta Izquierdo Muñoz chausse des patins à roulettes et elle goûte à la liberté que cela lui procure. Le plaisir de filer et de s'émanciper sont au cœur de cette pièce puissante qui a entraîné le public viganais. Rencontre à chaud avec la chorégraphe à la sortie de la piste. Alors, bonjour Marta.
Bonjour.
On est à la... Vous faites l'ouverture du Festival de danse du Vigan, 4e édition,
ouais.
Avec Roll. Et vous avez encore les patins là.
Oui, c'est ça.
D'où c'est parti cette chorégraphie, cette idée ?
C'est parti des rencontres avec un patineur, déjà, qui est dans l'équipe, qui est le seul garçon de l'équipe, Eric. Voilà, j'ai collaboré avec lui sur plusieurs projets. Et on a fait ensemble un triptyque sur les communautés féminines et leurs pratiques. Donc on a fait une pièce sur les majorettes. On a fait une pièce sur les combattantes de la littérature et de la fiction. Et le troisième volet, c'était les combattantes sur roulettes. Et ces personnes, Eric, il est patineur artistique, donc j'ai commencé à lui parler de mon idée, et il a bien aimé. Et on a, voilà, petit à petit, un spectacle s'est créé.
Donc c'est un spectacle qui raconte une histoire.
Oui. Mmh. Oui.
Vous faites référence notamment à une partie de votre vie. Ouais. Il y a un petit côté autobiographique où vous dites que vous étiez en patin à roulettes à Madrid.
Oui, c'est ça. C'est, je l'ai raconté dans les spectacles. Parce que voilà, la pratique du roller derby, donc c'est des communautés de femmes qui luttent. C'est vraiment des communautés sur roulettes qui ont des luttes, notamment l'inclusion, l'égalité, le féminisme aussi. Et quand je les ai rencontrées, en fait, j'ai fait un flashback dans ma jeunesse à Madrid. Où en effet, je m'étais chaussée ces patins à roulettes dans les années 80 pour échapper un petit peu de ce qui était l'époque post-franquiste quoi, à Madrid. Et donc, je me suis souvenue de ces moments-là. J'en ai parlé avec les dramaturges, avec l'équipe. Et puis, j'ai développé cette histoire jusqu'à faire les liens entre les années 80 à Madrid et les post-franquisme et les années 2020 à Toulouse, où j'habite maintenant.
Vous êtes à Toulouse.
Oui.
C'est une pièce très, très émancipatrice,
oui.
On va dire.
Oui,
vous faites
oui,
référence
oui.
à la Movida.
C'est ça, voilà. Et... Tous les mouvements un peu qui ont donné un peu de la liberté. Voilà.
Cette liberté, vous la saisissez complètement aujourd'hui. Hein.
Oui, oui, oui. C'est très important. C'est une liberté avec beaucoup de contraintes, parce qu'on n'est pas libre tout juste comme ça. On est libre avec des contraintes, mais voilà.
Et alors, vous faites participer le public, notamment corporellement. C'est
oui.
aussi une forme de liberté par rapport à un public statique, généralement.
Je me donne la liberté de traverser, en tout cas, les quatrièmes murs quand j'en ai besoin. Parce que pas systématiquement, mais il y a des moments où je m'interroge sur est-ce que le public y reçoit. Et des fois, ça me fait peur que ça soit que de l'esthétisme, vous voyez. Voilà, et quand je suis en train de vibrer, des fois, je me permets d'y aller et partager cette vibration avec eux. Voilà.
Alors, ce qu'on voit dans la pièce, il y a des moments très, très esthétiques, d'une
oui.
certaine façon, parce
oui.
que là, le fait de patiner,
la danse
en patin, ça donne une autre approche.
Oui, tout à fait.
Je suppose que techniquement, ça ne doit pas être si évident que ça, de coordonner
ouais.
aussi bien les mouvements, les pulsions, la dimension à l'espace.
C'est ça. C'est compliqué. Voilà, techniquement, c'est très complexe. Et rajouter la danse sur les patins, c'est complexe, surtout qu'il y en a des danseurs, mais il y a aussi des sportifs. Donc il y a des gens qui n'ont jamais dansé, donc c'est assez compliqué. Et oui, voilà, c'est vrai que ça amène vers un esthétisme. Et voilà, donc à chaque fois, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai fait se passer. Est-ce que c'était l'esthétique, ou est-ce qu'il y avait un état, ou une idée, ou une intention qui
ça parce que c'est pas qu'esthétique aussi.
C'est-à-dire
qu'il y a une dimension où ça barre,
voilà,
on est parti. et là, il y a de la puissance, il y a de l'énergie.
Voilà. Exactement.
L'énergie libérée quelque
oui,
part.
Oui, exactement, mm-hmm. tout à fait. Bon, ça montre aussi est-ce que les gens y font sur les patins. C'est parce que l'équipe des rôles, ils viennent tous des pratiques des patins différentes. Donc pour moi, c'était important que chacun il puisse exprimer sa manière de lutter aussi. Il y en a qui luttent avec une grâce particulière, on l'a dit au début. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus acharnés. Il y en a d'autres qui évitent. Et c'est la manière de lutter aussi, éviter les conflits.
Ça dit beaucoup de choses, ce spectacle.
Oui, beaucoup.
Et vous faites référence au passé, mais ça fait aussi référence au présent.
C'est ça.
Politiquement, j'entends.
Oui, ça me préoccupe. Ça me préoccupe, cette dimension-là.
On a quand même, justement, en Espagne, un mouvement par rapport à l'Europe qui est singulier, avec
oui.
Ce qui se passe...
Avec l'expert de Sanchez et tout ça. Oui, mais peut-être parce qu'on a déjà eu... Parce qu'en fait, si on révise l'histoire espagnole, Franco, il est mort en 75. Et donc, c'est pas... Il y a très peu de temps, en fait. Parce que comme je raconte dans le spectacle, après qu'il est mort, on n'est pas sorti tout de suite de cette ambiance-là. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est tout récent que l'Espagne se sent... Elle ressent la liberté, vraiment. Vous voyez ? qui reçoit les immigrés, que l'économie augmente, qu'il y a une certaine... Bon, ok, on a la place tout d'un coup, non ? Parce qu'on avait été coupé de tout pendant longtemps, donc c'était assez dur. Et je crois que cette histoire-là, en parlant avec l'équipe, du coup j'ai fait les liens avec les années 2020, parce qu'en parlant avec les jeunes de l'équipe, ils ne connaissaient pas que l'Espagne l'avait passé cette période-là. Mm-hmm. Et du coup, je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que les gens ils connaissent des dictatures finalement, de cet système politique quoi, qui n'est pas un exemple du tout. Et voilà, et du coup, j'ai fait les liens avec l'actualité, tout à fait. Et la préoccupation de que, oui, de qu'on revienne sans se rendre compte presque au fascisme et à ce régime pénible, quoi. Mm-hmm.
C'est vrai qu'il y a un réveil politique. Enfin, je pense notamment, par exemple, au rapprochement avec le Mexique qui s'était coupé à un certain moment. Et vous faites un réveil artistique.
Oui, c'est ça. C'est une petite... Bon, allez, on ne s'endort pas, quoi. Il ne faut pas s'endormir.
Parce qu'on passe à la fois de la colère au zen aussi.
Oui. Hein. C'est très japonais, quoi. Ouais. Ça, oui. On est assez extrême. Ça, oui.
Vous avez des projets, là, sur...
Alors là, justement, on vient de créer un gros cabaret qui s'appelle le cabaret Rabioso, qui a été créé à l'Essai national de Reims, qui était sublime, et puis on va le faire tourner, je pense, parce que c'est extraordinaire. Et pour la suite, oui, il y a des projets. Il y a un projet sur... on est en train de créer un projet qui s'appelle Créature, qui va parler du carnaval pyrénéen, donc de la figure du sauvage dans les carnavals pyrénéens et tout ça.
Alors juste une petite question pour terminer. On travaille sur un numéro thématique qui se pose la question de la culture d'aujourd'hui et celle de demain. Mm-hmm. C'est-à-dire on ne va pas forcément chercher dans le passé, on essaie de saisir ce qui se passe aujourd'hui et de se projeter demain. Comment votre point de vue sur cette question ?
Dans quelle dimension exactement ?
Bah dans la pratique la culture, qui est la vôtre. Hein. Quand on dit culture, c'est pour nous ça comprend aussi l'artistique. Hein. Donc on interroge différents artistes entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain.
Demain. Bah, j'ai l'impression que la question de l'engagement dans l'artistique, on en parle beaucoup, et pour le futur, ça va être quelque chose d'assez important parce qu'il y en a de moins en moins des possibilités de s'engager pour beaucoup de raisons, parce que on est dans une société consommatrice, on passe très vite sur un projet ou à l'autre, l'autre. On n'incarne pas, mais dans la danse il y a ça, les jeunes ils ont du mal à incarner quelque chose, ça prend beaucoup de temps et ça les fait très peur par exemple, donc j'ai quand même l'impression de que ça va être un peu les nerfs de la question, s'engager sur des projets, s'engager sur des idées, pareil, et voilà, ça c'est incarner aussi, essayer de vivre des choses, de ne pas avoir peur. Et la question de la communauté. Comment les artistes ils font communauté. Comment, voilà, en étant des artistes de dimensions différentes et tout ça, ou de pratiques différentes, ou des idées différentes, comment on peut vivre ensemble, comment on peut créer du commun.
Merci beaucoup. Donc, voilà. Ainsi s'achève cette émission consacrée au lien entre l'énergie citoyenne et le développement territorial. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne, voire européenne, en accès libre sur le site altermidi.org. Vous pouvez aussi vous procurer le dernier Altermidi Mag, où on parle du rire et une enquête sur la crise du logement en région. Dans les kiosques. Enfin, vous pouvez aussi nous rejoindre. On ouvre nos colonnes aux contributions citoyennes. Et si vous souhaitez contribuer à nos publications, écrivez-nous en précisant vos intentions à l'adresse débatcitoyen@altermidi.org. Merci à Isa, à la technique aujourd'hui, et à bientôt.